France Culture a rendu hommage toute cette semaine à Michel Foucault, mort il y a 20 ans. À cette occasion, nous revenons dans la nouvelle fabrique de l'histoire sur les rapports difficiles du philosophe avec les historiens et interrogeons l'historienne Michèle Perrault qui fut une des maîtresses d'œuvre d'une grande rencontre en 1978 entre Michel Foucault et un certain nombre d'historiens à la Sorbonne. Mais auparavant, une archive de 1969, juillet 1969, Michel Foucault parle de ses rapports à l'histoire.
Je voudrais vous demander, Michel Foucault, comment on pourrait définir le rapport de l'histoire à la pluralité et la multiplication des histoires.
Il y a en effet un phénomène qui, je trouve, est assez frappant, c'est que on parle des historiens en général, et puis on oppose à ces historiens ceux qui sont historiens de la littérature ou de la philosophie ou des sciences. Et cette distinction, cette opposition pose tout de même des problèmes. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un domaine particulier, un ensemble d'objets qui relèvent de l'histoire en général, ou l'histoire tout court, et puis d'autres objets dont le statut serait tellement particulier, tellement différent des autres, qu'il leur faudrait en quelque sorte des historiens spécialisés, des objets qui seraient tels que les méthodes d'analyse qu'on emploie à leur sujet devraient être différentes des méthodes d'analyse qu'on emploie pour l'histoire générale. Autrement dit, est-ce que la littérature ou la philosophie peuvent faire partie de l'histoire tout court? Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que les historiens ne s'en occupent pas? Ou bien est-ce qu'il faut considérer que la philosophie ou la littérature ont un type d'évolution historique, obéissent à des lois historiques entièrement différentes? Je crois que le problème, en fait, ne doit pas se poser comme ça, malgré ce curieux phénomène de langage. Il me semble qu'il n'y a pas d'histoire globale, ou si vous voulez encore, d'histoire générale. Ce qui est général, c'est au fond les concepts dont on dispose, c'est l'arsenal de notions qui ont été mises au point d'une façon, je crois, assez récente, depuis disons, Marc Bloch et Lucien Febvre. Ces notions, peut-être un peu difficiles ou prétentieux de les énumérer. Enfin, il me semble que des notions comme celles, par exemple, de série, de corpus, de discontinuité, de système de relation, de système de transformation. Tout ça, ce sont des notions que toute personne qui fait de l'histoire est amenée à utiliser. Et c'est à ce niveau seulement des notions ou des méthodes qu'il y a une généralité de l'histoire. Et en dehors de ça, il n'y a au fond que des histoires particulières, spécialisées, si vous voulez, des histoires systématiques, de domaines bien définis. Et ce qu'on appelle les historiens en général, je pense par exemple à Leroy Ladurie, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'histoire des climats ou de la climatologie historique. Il y a des gens qui font de l'économie historique, il y a des gens qui font de l'histoire de la population, de la démographie historique, et ce sont toujours des domaines spécialisés. Et dans cette mesure-là, je crois qu'il n'y a pas de différence de nature ni de statut entre l'histoire, disons, de la démographie ou la démographie historique et puis l'histoire de la littérature ou l'histoire des sciences. Ce sont là autant de domaines régionaux. Il n'y a d'histoire que régionale et elle n'est générale qu'au niveau des concepts ou des méthodes qu'on peut utiliser.
Michel Perrault, vous venez d'entendre cet entretien, cet extrait d'entretien plutôt qu'a donné Michel Foucault à Radio France il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, évidemment, puisqu'il est décédé il y a 20 ans. C'est à cette occasion qu'il y a plusieurs émissions sur France Culture qui sont consacrées à son apport à la philosophie, mais aussi à l'histoire. Alors, cet entretien sur l'histoire régionale, mais entretenue considéré comme différemment de ce qu'on dit de l'histoire régionale habituellement, c'est-à-dire ça n'est pas une histoire régionale géographique dont parle Foucault bien évidemment, mais plutôt une histoire régionale à l'intérieur d'une grande histoire qui serait générale au niveau des concepts. Est-ce que ça peut résumer justement l'idée que se faisait Michel Foucault de ce qu'était l'histoire et aussi peut-être le conflit qu'a connu Michel Foucault à un moment avec les historiens?
Alors d'abord, la clarté de cet exposé rétrospectivement paraît lumineux. Enfin, c'est lumineux. C'est lumineux, on a l'impression que on a quand même incorporé cette réflexion-là. Lui-même, d'ailleurs, se réfère aussi à des historiens comme Marc Bloch et Lucien Febvre, pour lesquels il avait beaucoup d'admiration. Il y a en même temps une protestation contre les étiquettes et la distinction entre une histoire régionale, non pas territoriale, mais des objets d'histoire. On peut multiplier les objets d'histoire. La folie est un objet d'histoire. Voilà. Pourquoi ne ferait-on pas l'histoire de la folie ? Bien sûr. Mais, par contre, les concepts, la réflexion historique, ça c'est général. Et au fond, il y a derrière cela la notion d'historicité. C'est-à-dire que tout est histoire.
Oui, alors avec une volonté de briser les barrières, de briser les frontières, et c'est peut-être là aussi où se situait le cœur du malentendu des historiens avec Foucault, parce que voilà le philosophe qui brise les barrières de la discipline historique, qui pénètre, comme le disait très bien dans la préface à l'impossible prison l'historien Jacques Léonard, il pénètre comme un cosaque qui rentrerait sur un nouveau territoire et qui ne ferait attention à rien d'une certaine façon, Michel Perrault.
Michel Foucault, cosaque de l'histoire, c'était le sens de l'article de Léonard, qui a été le point de départ d'ailleurs de la table ronde sur l'historien et le philosophe. Et effectivement, ce qui est reproché à Foucault, c'est d'élire des objets d'histoire très variés, qui sont pas très canoniques, et puis de ne pas s'enfoncer nécessairement dans la poussière des archives et l'accumulation des preuves, qui étaient considérées par les historiens comme une méthode scientifique. Finalement, on ne peut faire d'histoire scientifique que par le cumul, la statistique. Surtout dans ces années des années 50, 70, qui sont des années où le modèle dominant est un modèle de science dure. L'idée, c'est que l'histoire sera quantitative ou elle ne sera pas, comme disait le roi Ladurie, cité d'ailleurs par Michel Foucault. Et cela voulait dire que on privilégiait le travail d'archives, les statistiques d'archives, mais pas une. 10, 20, 30, 100, plus il y en avait, mieux ça allait.
On découvrait l'histoire en fiche, l'histoire qui allait devenir l'histoire avec l'informatique d'une certaine façon, oui. Et on découvrait tout cela, mécanographique pourrait-on dire. Mais ce qui est le plus curieux, c'est que quand on lit Michel Foucault, par exemple, cette histoire-là, il va y puiser aussi, lorsqu'il évoque le 18e siècle ou le 17e siècle, il va puiser chez Chaunu, par exemple. Et il cite Chaunu. Il n'a pas l'air d'être opposé à ce travail, justement, mécanographique, extrêmement lent, qui était celui de l'histoire quantitative, Michel Perrault.
Oui, il n'est pas du tout opposé à cela. De toute façon, c'était un homme qui suivait l'évolution des disciplines. Ce qu'il reproche dans cet entretien, ce sont ces frontières qu'on a mises entre les disciplines, justement. Et il cite la philosophie, il cite la littérature. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour la littérature, parce que le roman a été évacué par les historiens comme fiction, donc ne disant pas le vrai, hein, avec une idée du vrai qui serait justement puisée dans le cumul des archives. Et c'est absurde, parce que le roman, il est aussi réel que les archives.
Oui, vous qui êtes une spécialiste, entre autres, de George Sand, par exemple, qui vous intéressez au personnage de George Sand, les romans de George Sand disent autant que les archives sur George Sand.
Bien sûr, on fera peut-être un autre type de questionnement, de traitement, mais ces frontières-là, on voit bien que ça le choque et ça le gêne. De même, pour l'histoire de la philosophie, un philosophe doit faire l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire l'histoire des idées philosophiques, et c'est pas du tout ce qu'il avait envie de faire. Et pourtant, il se considérait comme un philosophe. Donc, il considère qu'il y a là des rigidités disciplinaires qui ont été créées par une certaine conception de la scientificité, et il a envie de jeter un coup de pied dans cette fourmilière. Et d'ailleurs, la réponse à l'article de Léonard, qui est d'ailleurs un article tout à fait intéressant, c'était la poussière et le nuage, puisqu'il y avait l'historien et le philosophe. Foucault reprenait la balle au bond et disait, eh bien, la poussière, vous les historiens, et le nuage, nous les philosophes.
Alors justement, revenons à cette tentative de conciliation, pourrait-on dire, entre historiens et philosophes, qui a été, qui a donné lieu à ce livre composite, où il y a à fois l'article que vous citiez, Michel Perrault, de Jacques Léonard, donc sur l'historien et le philosophe, qui est en fait une critique sévère, mais très argumentée, du travail de Michel Foucault sur Surveiller et punir. Donc ensuite, il y a la réponse de Michel Foucault, et puis un troisième temps dont j'aimerais que vous nous parliez, qui est ce temps de cette table ronde du 20 mai 1978, enregistrée à la Sorbonne, à la Société d'Histoire du 19e siècle, ou de 1848, je ne sais pas comment elle s'appelait à l'époque, donc en 1978, entre Michel Foucault d'un côté, accusé ou accusateur, on ne sait, et puis des historiens de l'autre qui dialoguent autour justement de la question « Est-ce que Foucault fait de l'histoire ? Comment en fait-il ? Et en quoi y a-t-il malentendu ou hiatus entre l'histoire qu'il fait et l'histoire que nous voulons défendre d'une certaine façon ?» Comment tout cela s'est-il mis en place, et comment d'une certaine façon ce livre « L'impossible prison » est-il le moment où Foucault re-rentre dans le milieu des historiens, là où peut-être il était resté un peu à la porte, Michel Perrault?
Très rapidement, acte 1, on décide de faire un numéro d'une revue, d'ailleurs les Annales historiques de la Révolution française, sur les prisons. Pourquoi ? Parce que le livre de Foucault venait de paraître, Naissance de la prison, et j'avais suggéré qu'on fasse un numéro spécial là-dessus. Et à ce moment-là, avec une critique, en même temps, une lecture de Foucault. C'est à ce moment-là que Léonard a dit « Moi, je le ferais bien, ça m'intéresse ». Il a donc fait son article sur l'historien et le philosophe. Cet article, je l'avais soumis à Michel Foucault, qui avait tout de suite dit « Ça m'intéresse, les historiens ne discutent pas avec moi tellement. Là, c'est une occasion, je réponds, d'où la poussière et le nuage. » Et c'est Foucault qui avait suggéré qu'on se réunisse autour de ces deux contributions, celle de Léonard et la sienne, qu'il considérait comme une réponse à l'article de Léonard. Alors, ça s'est fait, je passe naturellement sur les détails, ça a été compliqué, conflictuel, car chez les historiens, il y avait nettement deux familles, enfin disons des tendances, une très ouverte à Foucault et qui était supporter en quelque sorte, et qui avait...
Tant on peut dire que vous faisiez partie d'une
certaine façon. Oui, mais il y en avait beaucoup d'autres. Il y avait Arlette Farge, il y avait Jacques Revel, par exemple, au moins ces trois-là. Parce qu'on n'était pas très nombreux quand même. Et puis, Foucault avait François Ewald et un certain nombre de philosophes italiens, notamment, qui suivaient beaucoup son séminaire. Alors tout ça compliqué, organisé, et je dois dire que le démarrage de cette table ronde dans la Sorbonne, escalier C, troisième étage,
avec un malentendu, Foucault attendant à un endroit et vous à un autre, etc., avec un petit retard, qui provoque un peu de tension au départ de cet entretien.
Un peu de tension. Il y avait beaucoup de tensions. Il y avait beaucoup de tensions parce que il y avait des historiens qui n'étaient pas emballés par la démarche de Foucault et qui se seraient en effet volontiers érigés un petit peu en tribunal. Enfin, il vient me voir, mais il vient là dans un local historique. Et au début, c'était tendu. Il y avait pas mal de tensions. Ewald et moi, on avait préparé tout ça et on s'était chargé réciproquement de lancer un peu le débat. Bien, alors on a lancé le débat et Foucault a pris la parole assez longuement et c'était extraordinaire, c'était lumineux, c'était, il avait beaucoup réfléchi aux observations de Jacques Léonard. Il ne répondait pas à côté de la plaque, à la limite peut-être même qu'il précisait certains des concepts. Et puis alors, la discussion s'est engagée et la tension a quand même fini par disparaître.
Alors peut-on comprendre Michel Perrault pourquoi il y avait cette tension? C'est que il faut peut-être revenir avant cette table ronde, c'est-à-dire à la réception antérieure à 1978 des travaux de Michel Foucault depuis l'histoire de la folie en 1961. Donc ça fait quand même plus de 17 ans à ce moment-là que Foucault est entré avec fracas dans le monde intellectuel français, chez les historiens, c'est-à-dire des réticences, il n'est pas de notre monde, il ne travaille pas de la même façon, on le voit certes à la Bibliothèque nationale de façon opiniâtre en train de travailler sur les archives, mais il les utilise pas de la même façon que nous. Enfin, Quelles étaient les réticences qui provoquaient cette tension de début, Michel Perrault ?
Alors d'abord, il faudrait dire tout de même que oui, le monde des historiens était partagé, parce que quand Histoire de la folie est paru, il y a eu un article de Robert Mandroux dans les Annales et avec un chapeau de brodel qui est un salut à ce livre. Hein, autrement dit, les historiens n'étaient quand même pas tous fermés à la pensée de Foucault. Certains ont beaucoup admiré Histoire de la folie. Mais ce qui est intéressant quand on relit l'article des Annales, c'est que il le revendique comme un historien des Annales. C'est-à-dire, Foucault, encore un effort. C'est très intéressant ce que vous écrivez. Vous êtes des nôtres. Mais, aller un petit peu plus vers la psychologie collective, d'ailleurs je crois que Mandroux utilise l'expression, faites un petit peu plus de collectif et alors vous serez parfaitement à l'aise dans l'école des Annales, vous êtes quelqu'un des écoles des Annales. Mais Foucault était très content, il aimait bien ces gens-là, Mandroux, Brodel, mais il n'avait pas du tout envie de faire ça. Et donc au fur et à mesure des choses, après Histoire de la folie, il faut pas oublier qu'il y a eu Les mots, les choses, et que là, c'est autre chose. Il a montré l'analyse de l'épistémologie, les fameuses théories l'homme n'existe pas, enfin toutes ces choses qu'on a un peu caricaturées par la suite. D'une certaine manière, les historiens étaient peut-être soulagés parce que Foucault revenait vers l'histoire des idées.
Voilà. Hein,
mais il la faisait de manière extrêmement différente des philosophes, parce que si Foucault se démarque du travail des historiens habituels, il se démarquait encore beaucoup plus du travail des philosophes tel qu'il se faisait à ce moment-là. Hein. Il considérait que l'histoire des idées telle que les philosophes la faisaient, c'était une catastrophe. Et lui, il voulait pas faire du tout l'histoire des idées comme ça. Il voulait montrer justement que les idées qu'on appelle philosophiques ne se distinguent pas. Elles sont dans une espèce de couche d'épistémée et que on peut les faire voisiner avec des discours de prisonniers, de fous, d'une parole ordinaire, et qu'il faut prendre justement les choses dans leur entier et ne pas isoler les idées. Donc, il y avait cela. Alors, il y a tout ce débat sur les méthodes, sur les objets. Et puis en ce qui concerne l'essence de la prison, il y avait surveiller et punir. Par conséquent, il y avait un autre débat qui était très présent dans la table ronde que nous avons évoquée, qui est un débat plus politique. On a reproché à Surveiller et punir d'être un livre qui critique la démocratie.
Il critique la bourgeoisie et donc la démocratie, en particulier cette démocratie du 19e siècle, qui serait une démocratie bourgeoise d'une certaine façon, et presque on lui a reproché presque de glorifier le 18e siècle, le libertinage, un ancien régime qu'évidemment les historiens de la société du 19e siècle n'avaient pas particulièrement au fond de leur cœur.
Oui, même on lui reprochait de critiquer les Lumières, hein, et de montrer que les Lumières avaient engendré, je vais naturellement très vite, des systèmes de surveillance et de contrôle qui démentent un peu leurs intentions de la liberté, parce que Surveiller et punir est un grand livre sur la prison, mais c'est évidemment un grand livre sur la discipline de la société qui a été interprétée de manière parfois simpliste. Il y a aussi beaucoup d'interprétations dont par la suite Foucault a tenu à se démarquer. Mais le débat sur le progrès, sur la notion de progrès, était extrêmement présent autour de Surveiller et punir. Et par exemple, Maurice Agulon, qui est un grand historien de la République.
Et qui présidait la Société d'Histoire du XIXe siècle, et qui est dans ses bureaux, donc s'est tenu ce débat, voilà.
Absolument, et qui présidait même presque cette séance. C'était d'ailleurs très amusant parce que Foucault et Agulon étaient d'anciens camarades d'Ulm et même d'anciens camarades du Parti communiste pendant un tout petit peu de temps. Enfin, ils ont été ensemble dans une cellule de la rue d'Ulm. Et Agulon était très sensible à cet aspect-là, au point que quand il s'est agi de publier tout ça, ça a demandé du temps, Agulon a demandé à faire une préface pour dire que sans doute la discipline du 19e siècle était très très dure, mais qu'elle était quand même un progrès par rapport aux tortures du 18e, mettons, que la prison c'était mieux que les tortures du 18e, et qu'il voulait absolument dire qu'il y avait eu progrès en définitive. Et Foucault avait un peu sauté en l'air en disant Mais moi, j'ai jamais dit le contraire. Hein. Par conséquent, je ne veux pas me laisser préfacer par une préface qui me prête des interprétations que je n'ai pas. Et il avait demandé à écrire une conclusion, et il y avait donc eu un empilement de textes qu'évidemment le lecteur d'aujourd'hui ne peut pas tout à fait percevoir. Oui, mais alors, le conflit était très aigu.
Préface, donc article de Jacques Léonard, réponse de Michel Foucault, table ronde, et puis ensuite contribution de personnes, d'historiens qui travaillent sur le 19e siècle et sur la prison en particulier, et puis conclusion donc de Foucault. Effectivement, on voit bien que encore ce moment-là, qui se veut un moment de réconciliation, de rapprochement, est encore extrêmement conflictuel, qu'il y a encore, derrière tout ça, Michel Perrault, des malentendus, une volonté de ne pas réduire la fracture entre Foucault et les historiens. Alors, évidemment, il y a à la même époque des historiens extrêmement célèbres qui prennent parti totalement pour Foucault. C'est le cas de Paul Venn, par exemple.
Ah oui, bien
Paul
sûr.
Venn, qui a été un des grands apôtres du foucaldisme en histoire, qui a remis en particulier tout ce que disait Foucault sur le discours, sur l'analyse du discours et sur l'utilité que ça peut avoir pour l'historien, au centre des préoccupations, Michel Perrault.
Paul Venn est, j'allais dire, un alter ego, parce que ils s'étaient des amis, de grands amis, et ensuite ils ont été collègues au Collège de France, tous les deux, et ils partageaient les mêmes visions de l'histoire, l'importance du discours dans le domaine de l'histoire, aussi les attitudes vis-à-vis de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qu'un discours vrai? Ça, c'est quelque chose qui tracassait beaucoup et Venn et Foucault, et puis leur grand intérêt ensuite pour l'histoire de la sexualité, puisque l'un et l'autre, différemment, ont consacré des ouvrages d'un grand intérêt là-dessus. Et j'ajoute que Foucault, annonçant l'histoire de la sexualité en 76 dans La volonté de savoir, annonce un programme sur le 19e siècle. Et chacun sait que ce programme sur le 19e siècle, il ne va pas le remplir. Il va y avoir cette espèce de, j'allais dire, de nuit blanche. Hein, on en sort des nuits blanches très longues, pendant laquelle Foucault n'écrit plus. Enfin aussi, il écrit beaucoup d'articles. Mmh. Mais il laisse en panne son histoire de la sexualité. Et quand il la reprend quelques années après, et d'ailleurs les deux derniers livres vont paraître à quelques mois de sa mort, ça porte sur l'Antiquité. C'est pas, il est retourné vers l'Antiquité pour voir quel était le discours grec, les pratiques grecques en matière de sexualité, et puis l'époque romaine et les pères de l'Église. Hein. Comment s'est constitué le discours de la modernité sexuelle autour de l'hétérosexualité, l'homosexualité? Qu'est-ce que c'est que cette distinction-là? Et ça, c'est quelque chose qui, on parlait de Venn, mais qui passionnait Venn, il a écrit beaucoup là-dessus aussi.
Alors, on peut dire aussi qu'il y avait un caractère profondément provocateur, y compris dans les textes de Michel Foucault, lorsqu'il parlait de l'embrouille de l'objectivation historique. Alors effectivement, quand on dit ça à des historiens qui, certes, depuis, on a beaucoup évolué sur la question du récit en histoire, mais à l'époque, on n'était pas tout à fait sur ce point de vue-là. Quand on dit aux historiens qui pratiquent l'embrouille, on cherche l'embrouille soi-même, d'une certaine façon. Michel Perrault, j'imagine qu'il y avait des réactions à des provocations verbales que pouvait avoir Michel Foucault vis-à-vis des historiens.
Oh oui, bien sûr. Foucault était, d'ailleurs, dans cette table ronde, Foucault charmant, mais en même temps provocateur. Et on voyait que les gens étaient piqués au vif et avaient toujours envie de lui dire, mais vous n'avez pas fait de l'histoire, vous. Hein, vous n'êtes pas colleté les archives, vous n'avez pas accumulé les fiches, vous annoncez comme ça. D'abord, l'idée que l'on peut couvrir de longues périodes, de très longues périodes, c'était pas une idée.
Oui, Jacques Léonard disait Michel Foucault parcourt 3 siècles à bride abattue, voilà, comme un cavalier barbare.
C'est ça, absolument.
Alors ça ne passait pas, ça.
Passait pas du tout.
Oui, parce qu'il pouvait parler du 16e siècle, du 17e, du 18e, du 19e, alors que beaucoup d'historiens s'étaient spécialisés sur une période et à l'intérieur de cette période encore sur une autre période ou sur un territoire géographique.
Oui, et on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est l'époque où l'histoire est monographique, cumulative, on ne peut apporter sa pierre à l'édifice historique. Il y avait un petit peu une idée aussi de collectivité, que en prenant un coin de terre et en le labourant à fond. Voilà. Et de ce point de vue-là, on mettait aussi le travail empirique et cumulatif avant les idées. C'est ça aussi le problème. C'est que là où Foucault revient très fort, c'est sur l'idée de problématisation. Et il y insiste beaucoup dans cette table ronde, le mot problème, problématisation revient très fortement. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs, quand il a revu, parce que tout ça pour la publication, ça a été naturellement réécrit par lui beaucoup aussi, il précise bien, je ne suis pas un historien, je suis un philosophe qui pose des problèmes historiques. À ce moment-là, il s'est dit, oh là là, mais non, je suis pas historien comme les historiens le sont. Donc, je suis un philosophe qui pose des problèmes historiques dans le champ historique. Dans le champ historique. Mais il revendiquait le champ historique.
Alors, tension, dites-vous, même pendant la table ronde, tension après, parce que il y a cette idée de rassembler toutes ces contributions sous un seul contributeur qui serait l'historien collectif, qui pose quelques petits problèmes, parce que personne ne se retrouve vraiment dans cette personnalité de l'historien collectif qui interrogerait le philosophe qui est Michel Foucault qui fait de l'histoire. Et donc, les tensions continuent, Michel Perrault, mais ça c'est normal d'une certaine façon. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que quand on entend Michel Foucault s'exprimer comme on l'a entendu tout à l'heure, quand on lit ce qu'il y a dans l'impossible prison, on se dit d'une certaine façon que 78 c'était il y a à peu près 25 ans, mais que depuis, que de chemin a été parcouru par les historiens dans le sens de Foucault, d'une certaine façon, parce que beaucoup des choses qui sont dites par Foucault, qui étaient critiquées à l'époque par certains historiens, sont désormais acquises dans une sorte de vulgate historiographique qui est pratiquée par la plupart des historiens.
Oui, le Cosaque de l'histoire a gagné. Il nous a entraînés dans sa cavalcade. Oui, absolument. Qu'est-ce qui, de Foucault, a gagné? D'abord, le droit à... J'allais dire le droit, enfin, la multiplicité des objets d'histoire. On choisit pas n'importe quoi, bien entendu, mais on peut faire l'histoire de tout. Donc la notion d'historicité. Tout est histoire. On peut faire l'histoire de la mort. Et Ariès, par exemple, ne s'en est pas privé. Il y avait des historiens comme Ariès, qui sont des Foucauldiens.
Mais qui était déjà aussi un peu en marge de l'institution. Pour Philippe Ariès, il a eu beaucoup de difficultés à se faire reconnaître aussi de l'institution.
Tout à fait. C'était en effet les plus marginaux qui, à ce moment-là, étaient les plus proches de Foucault, si l'on peut dire. Il y a donc cette idée de multiplicité des objets, d'historicité, et puis l'idée de problématisation. C'est important de poser des problèmes, ça c'est essentiel. Et puis
le travail sur le discours.
Le travail sur le discours, voilà. Ce qui est essentiel, c'est l'histoire est un discours. Elle ne peut pas prétendre opposer le réel au discours n'a pas de sens. Hein. Et la notion de représentation, qui n'est pas proprement parlée une notion qu'emploie Foucault, est fille malgré tout à la fois de Foucault et peut-être dans une certaine autre manière de Paul Ricoeur, c'est-à-dire l'importance du discours effectivement comme objet même de l'histoire. Hein, c'est la mise en verbe, les mots, la langue. Est-ce que à la limite, c'est pas tellement Foucault qui a dit ça, mais on pourrait par exemple le fameux linguistic turn américain, c'est-à-dire l'idée qu'au fond on ne saisit que du langage et que on se fait des illusions si on pense que on saisit autre chose que cela, hein, et que toute histoire est ça, c'est langage. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'en sait rien.
Et donc récit, avec récit. Évidemment des débats autour de thématique justement proche du linguistic turn comme celle de Hayden White sur il n'y a pas de vérité en histoire, tout est les récits, tout est discours. Alors c'est vrai que l'école américaine d'histoire a beaucoup pris chez Foucault, et on le sait, c'est un des personnages, des penseurs français les plus étudiés aux États-Unis.
Beaucoup plus qu'en France.
Mais on peut dire que après des réticences, Foucault est devenu une sorte de personnage tutélaire qui surveille ou qui regarde de loin maintenant le travail des historiens après des moments où ça avait été très dur, Michel Perrault. C'est-à-dire qu'on voit vraiment aujourd'hui Foucault au cœur des débats, des discussions des historiens. Il est d'ailleurs régulièrement enseigné dans les universités d'histoire, là où on ne mettait pas en avant ses livres auparavant.
Oui, je nuancerai cependant. Je crois que tous les historiens ne sont pas d'accord là-dessus, et qu'il y a chez certains beaucoup de réticence, peut-être d'ailleurs un respect, mais un respect lointain, c'est-à-dire, bon, Foucault c'est très bien, mais si je fais de l'histoire diplomatique, si j'étudie les relations internationales, est-ce que Foucault peut me dire quelque chose? Certains diront oui, certains diront que dans les rapports de pouvoir, on peut introduire un regard foucaldien sur tous les types de rapports de pouvoir, et que ça donnera même peut-être un autre type d'analyse. Mais enfin, ne présentons pas non plus Foucault comme triomphant dans le domaine des sciences historiques. Elles ont eu aussi leur développement autonome. Mais en tout cas, il est quand même infiniment, oui, respecté, reconnu et lu.
Oui, et en particulier quand vous évoquez la question des rapports de pouvoir, tout le travail de Foucault sur ce qui précède le pouvoir, le savoir qui précède le pouvoir, et sa jonction, cette jonction entre savoir et pouvoir, cela c'est assez intégré aujourd'hui dans beaucoup de discours historiques, sinon dans tous, mais dans beaucoup en tous les cas.
Absolument, énormément. On pourrait en effet multiplier les exemples de ce point de vue-là, de la victoire posthume de Michel Foucault, je crois.
Merci Michel Perrault d'avoir bien voulu évoquer avec nous pour cette nouvelle fabrique de l'histoire donc cette table ronde de 1978 qui a donné lieu donc entre autres à ce livre L'impossible prison donc qui avait été publié dans ces années-là mais aussi plus globalement la personnalité de Michel Foucault dans le milieu des historiens. Merci encore.
Merci.